DW. Magazine Santé.
Susceptible de causer 200 maladies et traumatismes chez l'homme, mais rares sont parmi nous ceux qui savent que l'alcool est bien à l'origine de ces maladies, un véritable problème de santé publique donc, car selon l'OMS, plus de 3 millions de personnes meurent chaque année du fait de l'alcool, d'une consommation occasionnelle à un usage excessif. Certaines personnes ne peuvent plus se passer de l'alcool. Comment éviter d'en arriver là et surtout, comment sortir de cette addiction? On en discute avec notre invité en ligne de Conakry, le professeur Mamadi Mouri Keita, psychiatre addictologue à l'hôpital national de Donka. Bonjour et bienvenue, Nafissa Amadou, au micro. Professeur Mamadi Mouri Keita, bonjour.
Bonjour Nafissa, bonjour, merci pour l'invitation.
Merci à vous aussi d'avoir accepté de nous accompagner dans ce magazine Santé. L'alcoolodépendance ou l'alcoolisme, je parle sous votre contrôle, est définie comme une addiction à l'alcool, c'est-à-dire le besoin, l'envie ou bien la nécessité pour une personne de boire de l'alcool, allant jusqu'à rendre le consommateur incapable d'assurer ses tâches quotidiennes. Alors, la première question est celle de Siaka, un auditeur qui vit à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Professeur, je vous invite à l'écouter.
C'était pour savoir à quelle fréquence dit-on que quelqu'un est alcoolique. Et la deuxième question que je souhaitais poser, c'était de savoir, pour quelqu'un qui consomme au moins un verre par jour, quelles sont les conséquences auxquelles il s'expose sur sa santé?
Professeur Mamadi Mouri Keita, c'est une préoccupation partagée par nombre de nos auditeurs. Quand peut-on dire qu'une personne est alcoolique?
Il y a dépendance lorsque la personne ne peut plus se passer de l'alcool. Chaque matin, il lui faut consommer 1, 2, 3, 10 verres d'alcool pour se remettre en forme et pour pouvoir travailler dans la journée. À partir de là, on peut dire que la personne ne peut plus vivre sans l'alcool. Donc là, la quantité définie par l'OMS, alors veut dire que simplement, c'est une quantité qui ne limite pas forcément quelqu'un. Parce que les alcooliques, comme le nom l'indique, peuvent aller au-delà. Mais l'OMS a donné les normes pour éviter le pire, c'est-à-dire hein, 2 verres pour la femme, 3 verres pour l'homme par semaine. Mais ce ne sont pas des limites vraiment qui ne sont pas sans maladie.
Être dépendant, oui. Veut-il aussi dire qu'on est alcoolique?
Bien sûr, mais le consommateur d'alcool n'accepte pas ce terme, hein, nous on préfère leur dire qu'ils sont addicts, c'est-à-dire qu'ils ont une addiction vis-à-vis de l'alcool.
Quelqu'un qui prend au moins un verre d'alcool chaque jour, quelles sont les conséquences sur la santé de cette personne?
Quelqu'un qui prend un verre d'alcool tous les jours, ce n'est pas certain que la personne d'abord s'arrête à être. Hein, et l'alcool a toujours une conséquence sur notre santé, quelle que soit la quantité.
Même à faible dose, vous voulez dire,
hein? Même à faible dose. Parce que l'alcool intervient, agit sur notre conscience. Dans la conduite, par exemple, quand nous prenons l'usage simple, le premier type d'usage, hein, parce qu'il y a l'usage simple, il y a l'usage abusif, ou nocif, il y a la dépendance alcoolique. Dans l'usage simple, quand vous prenez un verre ou 2 verres d'alcool, vous vous mettez derrière le volant, vous risquez de faire un accident.
Oui, tout à
parce
fait.
Parce que le fonctionnement du cerveau n'est plus le même. Et ça va également agir sur le poids. Et ça peut créer des problèmes à la longue. Donc, quand le consommateur minimise sa consommation pour dire « moi, je prends seulement un verre d'alcool par jour », ce n'est pas certain. Il faut vérifier, il faut faire son alcoolémie pour voir. Parce que la quantité d'alcool absorbée par l'individu dépend de son âge, de son poids et également de son alimentation. Donc, l'alcool sera beaucoup plus fort sur notre organisme lorsque nous ne sommes pas alimentés, lorsque nous avons un âge très faible ou bien très avancé, et lorsque nous sommes amaigris.
Mais est-ce que tous les alcools sont dangereux pour la santé? Parce qu'on a la bière, on a le vin. Est-ce que tous ces alcools-là sont dangereux pour la santé?
Tous les alcools sont dangereux pour la santé. C'est vrai que les tenants de l'alcool vont vous dire le contraire. Mais en fait, l'alcool, c'est quoi? L'alcool, c'est le résultat d'une fermentation et dont le résultat est l'éthanol. Et le premier problème de l'éthanol, c'est que l'éthanol va agir directement sur notre foie. Et il va libérer dans le mécanisme du foie ce qu'on a appelé lactate. Et le lactate, c'est le consommateur d'alcool. Vous constatez les crampes que ces personnes développent, les crampes nocturnes et même les gouttes, qui sont toujours issues d'une uricémie élevée. Et à la longue, l'alcool va provoquer ce qu'on appelle la stéatose.
Pour résumer, l'alcool n'apporte rien de bien à notre organisme, même à faible dose.
Bon, notre organisme, n'oubliez pas que notre organisme en lui seul produit de l'alcool, mais à très 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 faible quantité, 0,05 grammes, et que l'organisme à lui seul peut produire de l'alcool. Et certains médecins conseilleraient, par exemple, que cette quantité est suffisante pour gérer les problèmes de notre organisme.
Donc, pas besoin d'en rajouter.
On n'a pas besoin d'en ajouter.
D'accord. Professeur, nous allons à présent parler de l'alcool frélaté qui explose dans le monde, surtout dans les pays pauvres. Il est consommé par ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter de boissons alcoolisées propres à la consommation. Moins cher, mais avec des conséquences dramatiques pour la santé publique. Professeur Mamadi Mori Keita, quels sont les vrais dangers liés à la consommation de l'alcool frélaté?
L'alcool frélaté, d'abord, c'est un alcool dénaturé, un alcool corrompu par définition. Donc, ce n'est pas un alcool qui répond aux normes et aux standards internationaux. Donc, c'est un alcool qui est très, très toxique pour notre organisme. Alors, il y a beaucoup d'alcools qui sont donc de cette façon et c'est produit un peu partout sur l'échelle internationale. Ce n'est pas en Afrique seulement. Dans nos recherches, on retrouve que même à Moscou, c'est produit. Mais beaucoup plus en Afrique, comme vous venez de le dire, au Cameroun, au Mozambique, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Sénégal, il y a de l'alcool frélaté, c'est-à-dire de l'alcool traditionnel à tous les niveaux. Et ces alcools, le danger est que ces alcools, alors, contiennent le plus souvent du méthanol. Le méthanol est beaucoup plus nocif pour notre santé que l'éthanol. L'éthanol, je vous ai dit tout à l'heure, peut agir à une quantité beaucoup plus supérieure sur notre foie. Mais le méthanol, alors, a une action nocive directe sur le nerf optique, donc peut provoquer la cécité et même la mort.
Donc c'est très très dangereux.
Ce qui fait que très dangereux, vous trouverez dans certaines statistiques, je ne sais pas, c'est en Tanzanie, où il y a eu 114 personnes qui sont mortes après avoir consommé de l'alcool frélaté, c'est-à-dire de l'alcool traditionnel ou artisanal. Mais ces alcools ont des noms selon chaque pays. En Côte d'Ivoire, par exemple, vous trouverez, et au Burkina, vous trouverez le Tchapalo ou le Koutoukou. Ce sont des alcools très, très toxiques. Il ne faut vraiment pas encourager la consommation dans nos sociétés.
Tout à l'heure, vous avez parlé du Tchapalo ou bien du Dolo. Eh bien, je vous invite à écouter ce reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Richard Tiené, qui est allé à la rencontre de Bazongo Koulou, il a 50 ans. Et l'alcool, vous allez l'entendre, aura une emprise sur lui dès le bas âge.
Si l'appétit vient en mangeant, chez Bazongo Koulou, la prédilection pour le Dolo ou le Tchapalo, la bière de mine locale, trouve ses origines dans la pratique de certains rites et coutumes.
Chez nous, on est trouvé que nos parents étaient des animistes. À chaque fétiche, il faut l'alcool pour mettre sur les fétiches. Bon, on est trouvé que nos grand-mères préparaient les dolos, on consommait les dolos, donc on est obligé de goûter. À partir des 6 heures, il faut jouer un peu des petits tam-tam pour que bon, les gens sachent que c'est dans la cour là qu'on prépare les dolos.
D'une gorgée de dolos innocentes dans les cases de fétiches, Bazongo est devenu l'enfant du des cabarets, de calebasse en calebasse, avec le coaching d'acolytes rompus à la tâche, il rejoint le rang non envié des meilleurs alcooliques du village. Mieux, il fait partie des griots qui tambourent à l'excel, orientent leurs congénères vers les meilleures beuveries de la campagne. Les premiers effets d'un excès de la consommation d'alcool ne tardent pas à se manifester.
Quand on consomme un peu, bon, déjà, On a les vertiges, bon, hormis les vertiges, bon, quand tu te réveilles, c'est des petits malaises, bon, tu sens que ton organisme s'est abattu, bon, il faut que l'effet passe avant que tu te retrouves. On est exposé à beaucoup de choses, même dans la conduite, les accidents, bon, les énervements, bon, ça arrive dans tout, quoi, dans tous les sens.
Sous l'emprise de l'alcool, Bazongo sera la victime idéale de pathologie.
J'ai eu l'hypertension, j'ai été hospitalisé, tout ça là, bon. Avec toutes ces réflexions, je vois que je n'ai aucun intérêt pour ma famille, quoi. L'alcool, ce n'est pas une obligation. Tu la bois ou tu ne la bois pas. Tu vas dormir, tu vas vivre. Le bon choix, c'est de l'arrêter et puis avoir sa santé. Même quand on veut la prendre, on prend en modération. Puis bon.
L'alcoolisme au Burkina Faso touche de plus en plus la frange jeune de la population. De nombreux accidents de la circulation et des cas de violence conjugale sont liés à une consommation abusive d'alcool, le plus souvent frélaté. Richard Tiené à Ouagadougou pour la Deutsche Welle.
On l'a entendu, hein, Bazongo a commencé très très tôt à consommer l'alcool au village, même si c'est pour des rites et en petite quantité. Malheureusement, ils sont nombreux qui n'en sortent plus. Une réaction, professeur?
Ben oui, bien sûr, c'est une réaction. Généralement, vous savez, la culture, heureusement que ce n'est pas tous les pays qui ont cette culture de consommation d'alcool, parce qu'il y a des pays dont une frange importante de la population n'est pas dans cette consommation. Mais il y a d'autres pays aussi où il y a des franges très importantes qui sont très impliquées, très culturelles, et je crois que c'est ce qui arrive à notre invité, M. Bazongo du Burkina. Effectivement, le Kapalo ou le Kutuku sont des boissons frélatées qui sont fabriqués à partir des céréales que l'on boue, et une fois bien bouilli, tout le quartier ou tout le village vient s'abreuver dans cette consommation.
C'est également fermenté, alors, je pense, le sorgho.
Très fermenté aussi, oui. Il y en a qui fermentent, il y en a qui bouent. Et donc, c'est les deux méthodes d'obtention du Kapalo. Mais c'est que, quel que soit le résultat, c'est qu'on aboutit toujours à l'éthanol, mais aussi au méthanol,
oui.
qui est vraiment un produit très toxique pour notre organisme. C'est pourquoi vous rencontrez beaucoup plus de problèmes, de complications neurologiques et même de complications ophtalmologiques à partir du moment où il y a le méthanol. Mais quand vous verrez également dans nos hôpitaux, il y a beaucoup de problèmes d'hépatite, beaucoup de problèmes de cirrhose, qui sont les complications de ces consommations-là. Parce que là, c'est un alcool qui n'est pas dosé. Pour être plus clair aux yeux des auditeurs, cet alcool n'est pas dosé et il y a généralement une petite calebasse que le consommateur va remplir, deux ou trois, et puis pour se sentir vraiment satisfait.
Dans cet élément aussi, professeur, dans cet élément aussi, Bazongo a évoqué quelques risques auxquels un alcoolique est exposé, notamment les accidents, vous avez parlé de ça aussi.
Bien sûr.
Il dit avoir souffert d'hypertension, mais il y a plus grave que ça. Il y a aussi les troubles mentaux et comportementaux, ceux que beaucoup de personnes ignorent peut-être, et cela conduit souvent au rejet de la famille.
Bien sûr. Alors, les complications sont majeures. Il y a des complications, comme il vient de le dire. Peut-être que c'est ce qui est apparu à ses yeux, les complications majeures. Alors, les accidents. Même à vélo, on peut faire un accident lorsqu'on a consommer suffisamment d'alcool de ce type. En moto, c'est la même chose. En voiture, c'est la même chose. Mais ce ne sont pas des accidents qui ont une base statistique pour qu'on puisse évaluer pour dire, voilà, ça c'est lié à l'alcool. N'eût été le témoignage éloquent de notre invité. Mais au-delà, il y a beaucoup d'autres complications qu'il vaut mieux en parler. Nous avons les complications digestives. Généralement, ce sont les cirrhoses hépatiques, ce sont les insuffisances hépatiques cellulaires, c'est aussi les ictères et les hépatomégalies. Mais il y a ce qu'on a appelé l'encéphalopathie hépatique et qui peuvent déboucher sur des éléments de troubles mentaux qui sont les syndromes confusionnels avec un coma. Et le plus souvent, le malade peut en mourir. Il y a également des signes cutanés qu'on peut constaté au cours de ces complications, qui sont généralement les érythroses palmaires, avec les ongles sous forme de tambour, ce qu'on a appelé habituellement l'hypocratisme digital, mais il y a aussi les signes endocriniens que nos collègues rencontrent dans les hôpitaux comme l'hypogonadisme et la gynécomastie, c'est-à-dire que les seins d'un homme vont pousser comme les seins d'une femme.
Une femme.
Et il y a ce qui est également que les gens mettent en Afrique, malheureusement, sur la tête des sorciers ou des diables, ce sont les hémorragies digestives. Alors, dès que quelqu'un vomit du sang, on dit « Ah, attention, là, on l'a cogné avec le médicament, on l'a cogné avec le gris-gris, et si nous fouillons dans son mode de vie, on va constater que c'est un grand consommateur de chapalo ou bien de koutoukou, mais, alors, il va présenter ce syndrome hémorragique-là. Par contre, il en a présenté déjà, qui n'a pas été très foudroyant, mais on trouvera un terrain très anémié. Alors, ça, ce sont les complications hépatiques. Il y a hépato-digestive. Il y a aussi des complications hypertensives, comme le disait notre collègue, et des complications cardiovasculaires, des complications gastriques, comme les gastrites banales que les gens présentent. Et il y a l'ulcère gastro-duodénal. Il y a aussi la pancréatite, n'est-ce pas? Il y a donc vraiment des terrains, des affections qui favorisent ce terrain pour des infections encore plus importantes. Donc c'est un terrain qui est déjà prédisposé à développer beaucoup d'autres maladies et les personnes alors peuvent en mourir. C'est-à-dire, il faut être clair que l'alcool, il n'est pas dit que l'alcool va tuer tout à l'heure. C'est-à-dire vous avez pris un pot de chapalo et vous allez mourir sur le terrain. Que ça va vous créer beaucoup d'autres maladies qui seront à la source ou qui seront responsables de votre mort dans les jours ou dans les mois à venir.
Nous allons maintenant, professeur, retourner en régie pour écouter le témoignage d'un auditeur, cette fois du Mali. Il s'appelle Mamadou.
Bonjour la DW. J'ai commencé à boire il y a environ 3 ou 4 ans et je suis sans emploi. Ce qui veut dire que je n'ai pas aussi d'argent. Cette envie de boire m'amène à voler mes parents et même à vendre des objets pour avoir de quoi m'acheter n'importe quel alcool. J'ai essayé plusieurs fois d'arrêter, mais bon, parfois j'ai l'impression d'être fou et je ne sais même plus quoi faire, vraiment.
Je ne sais pas si quelques minutes suffisent au professeur pour vous aider, Mamadou, mais il peut quand même vous donner quelques conseils. Qu'avez-vous à dire à Mamadou, professeur Keïta?
C'est vrai, je comprends sa situation. Il est, alors voilà, par définition, quelqu'un qui est purement dans la dépendance. Il faut trouver de l'alcool par tous les moyens. Il faut se procurer d'un verre ou de sa quantité suffisante le matin avant de retrouver son bien-être.
Ce qui l'amène à voler ses parents.
Bien sûr. Ce qui l'amène à voler, parce que le besoin est là, et ce n'est pas pour autre chose, c'est pour aller acheter de l'argent. Alors, le monsieur, il trouvera son salut en s'orientant vers les structures de prise en charge. L'alcoolisme, alors, mérite une prise en charge pluridisciplinaire. Il va d'abord vers un médecin qui pourra vraiment évaluer son état général et peut-être l'amener au changement de comportement. Il faut qu'il parvienne à arrêter cette consommation. Et comme le disait un de nos maîtres, lorsqu'on est dans une telle situation et qu'on n'a pas d'aide à côté, il faut vraiment faire regarder un peu dans son rétroviseur, voir les conséquences que cette consommation vous a attirées, pour prendre conscience de son état actuel et savoir que si vous continuez comme ça, alors c'est la mort qui vous attend. Vous allez mourir d'une complication sévère. Donc, mieux vaut prendre des dispositions en allant vers un addictologue où vous trouverez les meilleurs conseils.
Justement, ce qui nous amène à parler de votre travail, addictologue, qu'est-ce que vous faites exactement pour aider ce genre de personnes?
Merci, madame. Je fais une pierre deux coups. Alors, je vous disais que devant une telle situation, la prise en charge est pluridisciplinaire. Il faut tout d'abord chercher à évaluer la situation de ce patient, connaître la quantité qu'il consomme et depuis combien de temps il consomme, et également évaluer aussi les risques que la personne court. et ensuite amener la personne à la motivation. Sans la motivation, on ne peut pas les aider malheureusement. Et la motivation se résume sur des points très simples. Il faut amener la personne à reconnaître les problèmes qui sont liés à sa consommation, l'amener à reconnaître sa propre responsabilité dans la consommation de cette substance inadaptée, l'amener également à la reconnaissance de sa dépendance par rapport à l'alcool et également la nécessité de changer de comportement vis-à-vis de ce problème d'alcool. Et enfin, la nécessité de se réorganiser une vie parce que le but même de la prise en charge, c'est d'amener la personne à réduire sa consommation, voire même arrêter sa consommation pour lui donner une meilleure qualité de vie.
Est-ce qu'à ce stade-là, il faut prendre des médicaments ou...
Ben justement, c'est tout ce que je dis, ça c'est un travail de psychologue, mais le travail là n'est possible que lorsque le consommateur fait le premier pas. Tant que le patient n'est pas dans la demande de l'aide, on ne peut pas l'aider, justement. Alors, donc, à partir du moment où il parvient à demander de l'aide, le médecin exactement rentre maintenant en action. Et c'est là que le médecin va le proposer pour vous aider parce que à partir du moment où vous êtes dépendant à l'alcool, il est très difficile de vous faire un sevrage en ambulatoire. On va vous hospitaliser pour 7 jours au maximum. Si c'est vraiment de l'alcool, le sevrage prend une semaine. Et même pendant ce sevrage-là, c'est ce qu'on appelait le sevrage thérapeutique, il y a un contrat qu'on doit d'abord négocier avant votre hospitalisation. Le contrat veut dire quoi ? Des principes que vous n'allez pas enfreindre durant votre hospitalisation pour mieux mener à terme votre sevrage. Vous ne devez pas sortir de l'institution. Vous n'avez pas droit au téléphone. Vous n'avez pas droit à la télévision. Vous n'avez pas droit à la visite. Et vous serez tout de même surveillé par une personne familière.
Tout ça, c'est pour éviter la tentation.
Pour éviter justement la tentation, parce que si il a le téléphone, quand on l'appelle psychologiquement, il se rappelle tout de suite, et l'envie revient en lui. Ou bien la télévision, ça le rappelle. Ou bien la visite, quelqu'un peut lui glisser quelques centilitres d'alcool. Donc, ça, c'est négocier avec le patient. S'il est d'accord, tout de suite, on commence la prise en charge. Et généralement, cette prise en charge se fait en hôpital avec une mise en condition pendant 7 jours et une hydratation de 3 à 5 litres d'eau par jour, les benzodiazépines, les addictolytiques. Et justement, le malade sera reconditionné avec une vitaminothérapie. Généralement, c'est simple, c'est vite fait et le malade peut sortir. Mais tout ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a souvent des comorbidités. Il peut avoir une hypertension, il peut avoir une maladie du foie. C'est pourquoi on dit que la prise en charge est pluridisciplinaire. Il faut savoir passer la main à d'autres médecins, d'autres spécialités, pour pouvoir aider ce malade tout en le gardant avec vous dans des rendez-vous, parce que la prise en charge alcoolique ne va pas s'arrêter là. Il y a ce qu'on appelait la post-cure. Il y a la psychothérapie, la thérapie cognitivo-comportementale qui doit se poursuivre sur le long terme pour amener le malade au changement. Voilà comment nous aidons nos malades et dans les conditions même difficiles, parce que nous n'avons pas dans tous les pays de centre d'unité d'addictologie. Voilà, c'est ce qui est vraiment notre problème.
On n'a pas beaucoup de temps, mais je m'en voudrais de ne pas poser cette question que beaucoup d'auditeurs nous ont posée. Est-ce que l'alcoolisme est héréditaire, professeur?
C'est une question discutée. On a trouvé des gènes chez certains patients, chez certaines familles, c'est-à-dire que les enfants sont devenus des alcooliques parce que les parents, les grands-parents ont consommé. Mais je pense que c'est beaucoup plus comportemental qu'héréditaire, parce qu'on est beaucoup plus influencé par l'environnement.
Merci, professeur Mamadi Mori Keita, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes psychiatre addictologue à l'hôpital national de Donka, à Conakry, en Guinée. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour vos questions et témoignages. C'est la fin de cette émission que vous pouvez bien sûr podcaster sur notre site internet dw.com/français. Au revoir.
Mama, a kuma ki foli foloba antilino.